ICF.
Vous écoutez Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lime sur l'antenne de RCF 61. Médiatique qui s'est déplacée à Strasbourg pour cette dernière émission de la saison, où on vous a préparé un plateau international et pluridisciplinaire à l'image des conférences organisées à Strasbourg par nos amis de Lime Sans Frontières du 6 au 8 juin 2014. Une bonne dizaine d'intervenants provenant d'horizons variés, médecins généralistes, médecins spécialistes, chercheurs, pharmaciens, biologistes et même avocates. Et pour les pays, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Belgique et même la Hongrie étaient représentés pour des conférences passionnantes. Alors si vous n'avez pas eu la chance d'y assister, voici quelques témoignages que nous avons rapportés de là-bas. Donc on commence avec le docteur Eva Chapi. Son nom s'écrit Sapi, mais se prononce Chapi car elle est d'origine hongroise. Professeure à l'université de New Haven aux États-Unis. Elle mène des travaux de recherche sur la bactérie responsable de la maladie de Lyme, la Borrelia, et elle est célèbre pour avoir montré que cette bactérie élabore des biofilms. C'est avec plaisir et honneur que nous avons pu l'interroger.
Mrs. Eva Chapi, you are professor at the University.
Madame Eva Chapi, vous êtes professeure à l'université de New Haven et vous travaillez en ce moment sur la maladie de Lyme. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce sujet?
Now it's almost over a 10 years period.
Ça fait presque 10 ans aujourd'hui. Nous avons créé notre groupe de recherche sur la maladie de Lyme en 2004. Nous avons formé plus de 70 étudiants de troisième cycle. Donc il ne s'agit pas seulement de recherche, mais également de former les futurs médecins ou chercheurs qui travailleront sur Lyme.
J'ai entendu dire que vous travailliez auparavant sur les cellules cancéreuses de l'ovaire. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez changé?
Yes, I actually was working at Yale University, which is very close to my university, and the reason I changed because
En fait, je travaillais à Yale, qui était aussi très proche de mon université actuelle, et lorsque j'ai commencé à y travailler comme professeur, j'ai contracté la maladie de Lyme. Bien sûr, cela m'a fortement motivée pour mieux comprendre cette maladie et peut-être trouver quelques réponses.
So you're working on the different forms of the bacteria. Donc vous travaillez sur les différentes formes de la bactérie, essentiellement in vitro. Et quelles sont les diverses formes que l'on connaît à Borrelia burgdorferi?
I mean, everybody knows the spirochete forms. It's the famous form.
Tout le monde connaît la forme spiralée, le spirochète, mais il y a aussi d'autres formes. Lorsque vous cultivez la bactérie en laboratoire, vous pouvez voir des formes rondes ou kystes, mais nous avons aussi découvert une nouvelle forme, le biofilm. Toutes ces formes sont très résistantes aux antibiotiques.
So, during the conference, you talked about the fact that Borrelia burgdorferi was making aggregates and you. Pendant la conférence, vous avez dit que les Borrelia forment des agrégats et que vous aviez cherché à savoir si ces agrégats étaient ou non de vrais biofilms. Quelle est la différence? Il ne suffit pas que les bactéries se rassemblent pour constituer un biofilm?
That's right. So if they get together and is no communication, no making the city.
Effectivement. Et si les bactéries se rassemblent, mais qu'il n'y a pas de communication, pas d'organisation comparable à celle d'une cité en fait, avec des canaux, des ports pour évacuer les déchets et faire pénétrer la nourriture, ou s'il n'y a pas de couche protectrice, ce sont des caractéristiques importantes des biofilms et c'est pourquoi ils sont si difficiles à éliminer.
Donc vous considérez que c'est une forme de résistance de la bactérie quand elle est attaquée et qu'elle va se réfugier à l'intérieur?
Exactement. Pensez à ce que nous faisons pour nous protéger. Nous construisons des villes. Quand les bactéries veulent se protéger, elles construisent des biofilms. C'est la même idée. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est quel genre de protection possède ce biofilm. Parce que si nous connaissons mieux notre ennemi, nous pourrons construire des armes adaptées. Donc notre but maintenant est d'apprendre à le connaître.
Et avez-vous trouvé quelques points qui peuvent donner de l'espoir à ceux qui ont la maladie de Lyme?
What we found that this castle, I call it castle, biofilm castle, is very difficult to penetrate. So we have to use, we call the Trojan horse approach.
Ce que nous avons appris, c'est que cette forteresse, ce biofilm, est très difficile à pénétrer. Donc nous devons utiliser la tactique du cheval de Troie, tenter de se faufiler à l'intérieur et y amener les antibiotiques. Ce que nous avons appris au cours des 2-3 dernières années, où nous avons testé différents produits, c'est qu'ils ont tous un effet, mais aucun d'entre eux n'élimine complètement le biofilm, même dans un tube à essai. Nous avons donc besoin de quelque chose d'autre. L'approche que nous tentons depuis peu, c'est d'ouvrir ces canaux que nous avons découverts pour faire pénétrer les antibiotiques.
So all your studies or almost all your studies are in vitro.
Presque toutes vos études sont faites in vitro, mais vous avez aussi évoqué des études qui ont été faites pour voir si les biofilms existent aussi dans le corps des animaux ou humains infectés par la Borrelia. Vous pouvez nous en parler?
Yes, my studies mainly in the lab. However, I have a couple of very good collaborations. One of the recent collaborations with Dr. Jennifer Miller, North Carolina University. She has a method.
Mes études se font surtout en laboratoire, mais j'ai d'excellentes collaborations, comme récemment avec le Dr. Jennifer Miller de l'Université de Caroline du Nord. Elle a une méthode pour introduire la Borrelia dans des souris, et nous pouvons y rechercher les biofilms. Nous avons fait quelques expériences préliminaires ces deux derniers mois, et nous avons trouvé des preuves de l'existence des biofilms chez la souris. Nous avons aussi obtenu quelques échantillons de peau humaine infectée et nous avons trouvé des biofilms dans ces échantillons de peau humaine.
Et pouvez-vous nous parler un peu de ces échantillons provenant de divers organes d'une personne décédée de la maladie de Lyme? Si j'ai bien compris, vous avez reçu ces échantillons et c'est sur quoi vous travaillez en ce moment?
Yes, I mean this is very new, just a couple of weeks old. We were able to identify some cases when the person died from Lyme disease. So I had to find whether any tissue.
Oui, c'est extrêmement récent. Ça date d'environ 2 semaines. Nous avons pu identifier des cas où la personne est morte de la maladie de Lyme, et j'ai essayé de voir s'il y avait eu des prélèvements de tissus. Par chance, pour l'un des patients, il y avait beaucoup de prélèvements sur beaucoup d'organes différents. Nous sommes en train de les récupérer et nous verrons où nous pouvons trouver des biofilms, quel organe était affecté et mieux encore, pourquoi cette personne est morte.
Juste une dernière question à propos des traitements. Vous avez dit que vous essayez d'augmenter l'efficacité du médicament en lui ouvrant un chemin. Souvent, les malades de Lyme prennent de la sérapeptase. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez pu constater un effet dans vos expériences?
We did try sérapeptase. We did try other 50 different enzymes with different concentration. What we concluded that the enzymatic way is not the right way. Borrelia
Nous avons essayé la sérapeptase et nous avons essayé 50 enzymes différentes en variant la concentration. Notre conclusion, c'est que l'utilisation d'enzymes n'est pas la bonne solution. Borrelia arrive à échapper aux enzymes. Cependant, j'ai appris par ailleurs que la sérapeptase nettoie le sang, ce qui est efficace chez les patients Lyme. J'ai pris de la sérapeptase quand j'avais Lyme et ça m'a vraiment aidé. Mais je ne suis pas sûre que ça ait tué des bactéries. Ça m'a peut-être juste aidé à nettoyer mon sang.
Et la dernière molécule que vous avez testée, le stevia?
Stevia is being tested, as I mentioned. We test in different stevia from different companies.
Nous testons le stevia actuellement provenant de diverses compagnies. Malheureusement, la forme poudreuse que vous pouvez acheter dans tous les magasins ne marche pas. Je l'espérais vraiment, mais ça ne marche pas. Apparemment, la façon d'extraire le stevia de la feuille de stevia est importante. Si vous regardez dans la littérature scientifique, vous pourrez voir que le stevia a des propriétés antimicrobiennes. Mais nous pensons que c'est peut-être plus complexe pour les biofilms. Peut-être que le stevia est perçu comme une nourriture pour les Borrelia. Nous ne sommes pas encore sûrs de comment ça marche, mais le stevia est le produit le plus efficace pour le moment. Maintenant, nous utilisons le stevia comme témoin positif dans toutes nos expériences.
You said that stevia was a kind of food for Borrelia, just like.
Vous venez de dire que le stevia est une sorte de nourriture pour la Borrelia. Vous donnez quelque chose qui semble bon pour elle et finalement c'est mauvais pour elle parce que ça la rend plus vulnérable aux médicaments.
We have a new atomic force microscope. One of the question from one of my students.
Nous avons depuis peu un nouveau microscope à force atomique. L'hypothèse d'un de mes étudiants, c'est que le stevia pourrait être reconnu comme de la nourriture et que les canaux du biofilm alors s'ouvriraient pour laisser entrer la nourriture. Nous allons maintenant utiliser ce microscope pour voir si les canaux s'ouvrent. Peut-être que le stevia est absorbé activement par le biofilm et alors nous pourrions y faire pénétrer subrepticement des antibiotiques.
Cela semble très prometteur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
You're very welcome.
Pendant qu'Eva Chappi cherche des moyens d'augmenter la vulnérabilité de Borrelia aux antibiotiques, en ouvrant les portes de cette forteresse que sont les biofilms, les médecins traitants, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ont recours aux antimicrobiens existants pour lutter contre Borrelia et les autres pathogènes responsables des infections froides. Ces infections qui couvent pendant des années dans l'organisme sans provoquer de manifestations aiguës, mais qui détruisent peu à peu le système immunitaire et conduisent progressivement à une multitude de symptômes. Ces infections froides, dont Lyme fait partie, ont été incriminées dans la survenue des troubles autistiques. Et depuis plusieurs années déjà, certains médecins soignent l'autisme avec des antibiotiques. Nous écoutons maintenant le docteur Philippe Raymond du groupe Chronimed. Docteur Philippe Raymond, on vous connaît comme un des médecins de Cronimed, un des fondateurs. Est-ce que vous pouvez récapituler un petit peu les axes d'action de Cronimed et puis particulièrement en ce qui concerne l'autisme ?
Cronimed s'occupe en fait de rechercher les causes infectieuses et immunitaires d'un ensemble de pathologies chroniques sur lesquelles on n'a pas toujours de réponse ni diagnostic, ni au niveau des causes, ni au niveau thérapeutique. Dans ces pathologies chroniques, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de symptômes communs, de symptômes similaires, et notamment dans des cas d'enfants avec retard de développement. Et Cronimed s'occupe aussi de chercher donc ces causes immuno-infectieuses dans une pathologie qui est très problématique actuellement, avec l'augmentation de la prévalence et des multifacteurs, et notamment environnementaux, qui s'appelle l'autisme. On se rend compte qu'il existe de nombreux facteurs dans cette pathologie, et notamment un facteur d'infection chronique bactérienne qui est prédominant dans de nombreux cas.
Donc, qui dit infection bactérienne sous-jacente à ces pathologies. Donc, si c'est le cas, donc on doit pouvoir obtenir des résultats en soignant ces enfants par des antibiotiques. C'est ce que vous avez fait ?
Alors, effectivement, nous sommes maintenant 54 médecins en France à soigner environ 2000 enfants avec un protocole à base de médicaments antimicrobiens au sens large du terme. Ce sont à la fois des antibiotiques ou des antifongiques ou des antiparasitaires. Et ce protocole donne effectivement un certain nombre de résultats très encourageants. Ce protocole se conjugue par cure effectivement de traitements antimicrobiens qui s'espacent au fur et à mesure du temps.
Au niveau des résultats, par rapport aux cas que vous avez traités, vous avez quand même déjà du recul. Vous obtenez quel genre de résultats au niveau des pourcentages, par exemple, d'amélioration ?
Alors, quand l'enfant est pris en charge tôt, et notamment avant l'âge de 7 ans, nous avons 70% effectivement de résultats très intéressants. Et ce qui permet, quand je dis intéressant, ça permet de réduire les traits autistiques et quelquefois jusqu'à disparition totale. Sur certains cas qui ont été prouvés et confirmés par des services de pédopsychiatrie.
Donc ça, ce sont des résultats que vous avez obtenus sur les enfants que vous avez traités. Qu'est-ce qui vous manque en fait aujourd'hui pour pouvoir convaincre l'ensemble des médecins et éventuellement étendre ces traitements à tous les enfants ? Parce qu'actuellement, seuls les enfants qui ont accès aux médecins du réseau Cronimed peuvent obtenir en général ce type de traitement.
Effectivement, le challenge est élevé puisque nous avons en France plusieurs centaines de milliers d'enfants autistes. La prévalence augmente, donc nous en aurons de plus en plus. Cependant, ces 2000 enfants traités grand succès ont intéressé quand même nos confrères de pédopsychiatrie, et actuellement on nous demande de faire quelque chose de plus scientifique, c'est-à-dire de faire une étude en double aveugle contre placebo. Cette étude est effectivement actuellement totalement rédigée depuis déjà 2 ans en collaboration avec 3 centres de pédopsychiatrie qui sont les centres de l'hôpital Robert Debré à Paris, du CHU de Tours et du CHU de Bordeaux. Cette étude est coordonnée par l'INSERM de Bordeaux, par le professeur Nicolas Moore, que nous avions rencontré début 2012.
L'étude était prête, mais en fait, on va dire que les changements de circonstances font que les fonds qui vous étaient destinés, en fait, n'ont pas été débloqués.
Il est vrai que nous avions des contacts avec le gouvernement précédent, et sans vouloir faire de politique, ce gouvernement nous avait proposé de nous financer totalement cette étude. Et puis, à partir de juin 2012, le nouveau gouvernement a préféré placer ses priorités à d'autres endroits. Et donc, malheureusement, nous sommes encore en stand-by, en train d'attendre les fonds pour cette étude.
Donc si on résume bien, en fait, tout est prêt, le protocole est prêt, les hôpitaux qui doivent participer sont trouvés, et tout ce qui manque actuellement, c'est des fonds. Et donc si les fonds publics manquent, qu'est-ce qui vous reste comme alternative ?
Alors, effectivement, le budget de cette étude s'est élevé à 300 000 euros. Nous recherchons des financements privés pour l'instant pour essayer de la financer. Ce projet s'appelle l'étude antibiotique. Il a été devant le non-financement par le ministère de la Santé. Nous l'avons inscrit au programme hospitalier de recherche clinique en 2013 et il va être inscrit encore en 2014. Mais il n'a pas été sélectionné, et pour l'instant, l'autisme ne semble pas être une priorité pour nos politiques. Nous sommes soutenus dans ce projet par la Fondation Autisme, Agir et Vivre l'Autisme. Mais pour l'instant, l'instant, cette fondation n'a pas encore récupéré suffisamment de fonds pour nous financer.
On va espérer que ça va s'arranger dans les mois qui viennent. Docteur Raymond, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Quand on y réfléchit, c'est une situation assez surréaliste. On a un protocole de soins qui potentiellement peut améliorer, voire guérir, 75% des enfants autistes de France. L'étude clinique pour valider ce protocole coûte à peu près 300 000 euros. Ça revient grosso modo à 1 à 2 euros par enfant. Une fois validé et appliqué à tous les enfants, ce protocole pourrait diviser par 4 le nombre d'enfants autistes. Mais ça n'intéresse pas nos dirigeants. Alors merci à la Fondation Autisme, Agir et Vivre l'Autisme, et merci à tous ceux qui ont déjà donné pour faire vivre ce projet. On vous revient après la pause musicale avec deux autres témoignages. Vous êtes à l'écoute de Médiatique. Si les pouvoirs publics se désintéressent de l'autisme, ils s'intéressent parfois de près aux gens qui essayent de faire quelque chose pour lutter contre la maladie de Lyme. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du pharmacien alsacien Bernard Christophe, dont le produit d'aromathérapie, le TicTox, a été interdit en France en 2012. Bernard Christophe nous raconte son parcours.
J'ai démarré l'étude de la borreliose de Lyme il y a 19 ans. L'historique serait peut-être trop long à raconter, mais en faisant l'étude de cette maladie, je me suis aperçu de l'importance qu'avait cette maladie et j'ai même appris que j'étais moi-même touché et que je porte supporteur de cette maladie depuis 65 ans, puisque ça a été transmis par ma mère certainement. Donc, ça fait 19 ans exactement que j'étudie cette maladie et que je reçois des documents du monde entier. Et mon épouse étant également touchée, raison de plus pour que je l'étudie à fond. Quand j'ai vu l'ampleur de cette maladie, j'ai moi-même écrit 3 lettres recommandées à 3 ministres de la Santé successifs comme un lanceur d'alerte pour signaler le grave problème de la borreliose et qui est responsable, disons, d'une foule de symptômes et qui ne sont pas reconnus. Alors j'ai signalé que c'était toujours par nos experts considéré comme une maladie dite rare, ce qui est totalement faux. Quand je vois le nombre, j'ai vu minimum 25 000 personnes qui étaient touchées. Et donc je me suis aperçu que les gros problèmes en France étaient la communication, c'est-à-dire pas de formation médicale, pas d'information sur les modes de transmission. On transmet que, par exemple, on parle que d'éthique, alors qu'il y a d'autres vecteurs de la transmission. On parle peu des modes de transmission tels que le sang contaminé, enfin les transfusions sanguines. Les transfusions sanguines, puisque c'est transmissible par les transfusions. J'ai très peu entendu parler de la transmission de la mère à l'enfant via le placenta ou l'allaitement. Actuellement, on parle, et de plus en plus d'études vont se faire dans les prochains temps, sur la transmission par voie sexuelle. Et je suis déjà, comme d'habitude, un peu en avance. On pense même à la transmission possible par la voie alimentaire, puisque un certain nombre de viandes ou de laitages fromages peuvent être contaminés. Et donc, pour moi, ça devient une maladie qui est plus grave que le sida et le sang contaminé réunis. Et je ne comprends pas que nos instances médicales et ministérielles ne bougent pas. J'ai écrit à des politiques, j'ai écrit à des ministres, j'ai écrit à des infectiologues. Je n'ai jamais eu aucune réponse. C'est pour ça que, exaspéré, au bout de 19 ans, j'ai fini par porter plainte pour non-assistance à personne en danger, ce qui m'a valu tous les ennuis qui ont suivi. Et on me fait passer pour charlatan, escroc et même empoisonneur, puisque le TicTox en France serait toxique. En Allemagne, on autorise des doses 30 fois supérieures de thuyone. Et la sauge n'est pas en vente exclusive en pharmacie, alors qu'en France, elle l'est. Vous savez, les problèmes peuvent, selon les personnes, avoir deux effets. soit déprimé, soit réveillé. Alors, l'exemple que je donne, c'est l'animal dans la nature. S'il ne se lève plus devant son prédateur, il se laisse manger. Ben moi, je n'ai pas l'intention de me laisser manger.
Le pharmacien Bernard Christophe garde donc le moral malgré tout. Et nous aussi, on va garder le moral parce qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre tous ensemble pour faire avancer les choses. Pendant que le docteur Eva Chappé tente de mieux connaître la Borrelia pour mieux la combattre, une chercheuse belge, Valérie Obsommer, s'est lancée dans une grande enquête afin de mieux connaître les vecteurs principaux de la maladie de Lyme, les tiques. Et là, on découvre que le manque d'engagement des pouvoirs publics n'est pas une spécificité française. En Belgique aussi, on sous-estime l'importance de la maladie de Lyme. Écoutons Valérie Obsommer.
Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur les maladies données par des vecteurs. Donc j'ai travaillé sur les moustiques et ici récemment sur les tiques. Mais donc sur ce projet que j'ai fait récemment sur les tiques, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème par rapport aux maladies transmises par ces vecteurs. Tout d'abord en Belgique, il n'y avait aucune liste existante des espèces de tiques présentes chez nous. Il n'y avait aucune carte de distribution, et alors la manière dont le nombre de cas de malades était détecté, comptabilisé, en fait n'était pas assez efficace que pour pouvoir vraiment suivre ce qui se passait.
Donc en fait, devant l'absence de données fiables, vous avez décidé, vous, d'essayer de collecter ces données à la source, on va dire ?
Oui, donc en fait, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai regardé dans la littérature toutes les informations qu'il y avait sur les tiques, et ça m'a permis de faire une carte de distribution du vecteur principal. Puis j'ai regardé les pathogènes qu'il y avait dans ces tiques, donc j'ai fait une carte des pathogènes. Mais bien sûr, ce qui me manquait, c'était le contact homme-vecteur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des tiques que les gens se font mordre, il faut qu'il y ait des gens et des tiques. Et il y avait aussi une grande discussion au sein des médecins au sujet des symptômes qui étaient reliés aux maladies éthiques. Et donc j'ai décidé de faire une enquête publique. Donc c'est juste un formulaire sur Internet que j'adresse aux personnes mordues par des tiques. Et je cherche plusieurs informations. La première, c'est la localisation, l'endroit, la localisation géographique dans laquelle les gens se sont fait mordre pour pouvoir faire une carte des endroits où les gens se font le plus mordre. Mais je demande en plus aux gens quels sont leurs symptômes. Et comme ça, je peux faire des comparaisons entre les gens qui ont la maladie de Lyme ou pas. Donc je leur demande aussi s'ils ont la maladie de Lyme ou d'autres maladies éthiques. Et ça permet un peu de clarifier toute cette situation qui n'est pas claire. Donc j'essaie en fait de créer des données qui sont d'une certaine qualité, puisque c'est une enquête public, c'est pas non plus une enquête, c'est pas non plus une recherche clinique, c'est pas non plus un essai clinique, disons, mais ça donne une première piste sur les types de symptômes qu'on rencontre, où sont les gens qui sont les plus malades et où se trouve les tiques.
Donc par exemple, dans l'Orne, on a nous beaucoup de tiques, mais on n'est pas du tout considéré comme une région avec une forte endémie au niveau de la maladie de Lyme. Si les gens déjà ont été mordus par une tique, même sans être malades, ils peuvent participer à l'enquête, même si c'est vous êtes belge, mais en fait vous pouvez aussi recueillir des données sur la France.
En fait, l'enquête est faite en français, en irlandais, en anglais. Et la première question, c'est le pays dans lequel on se fait mordre. Après, je demande le département, etc. Et donc, en fait, toute personne de n'importe quel pays peut répondre à l'enquête.
Donc, est-ce que vous pouvez nous donner, en fait, la procédure qu'une personne veut suivre si elle veut participer à cette enquête? Comment fait-elle pour pouvoir y participer?
Donc il faut se rendre sur le site tekentik.net, donc c'est www.tekentikues.net. Et donc il y a un lien sur ce site qui va directement vers l'enquête. Sur le site, vous trouverez aussi déjà les premiers résultats de l'enquête qui ont été compilés à partir des 1500 premières réponses pour la Belgique. Alors pour la France, on a déjà 150 réponses. Et donc j'ai déjà quelques résultats, mais vous comprenez bien que 150 réponses sur toute la France, ça ne donne pas encore grand-chose. Mais maintenant, on pense en fait lancer cette enquête vraiment sur la France et voir un petit peu si on peut aider à caractériser dans quelle zone est-ce qu'on se fait mordre ? Est-ce que les gens se font mordre dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les municipalités ? Ou est-ce qu'il y a des zones de plus grande abondance et quels sont les symptômes associés ?
D'accord. Donc tous les habitants de l'Orne peuvent bien sûr y participer, qu'ils aient ou non développé des symptômes suite à la piqûre de tique.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir aussi, de savoir où les gens se font mordre par des tiques. Ça, c'est le premier but de l'enquête. S'il n'y a pas d'informations sur les cas humains, en fait, on peut se servir d'autres indicateurs pour savoir s'il y a un risque ou pas. Donc, on peut savoir d'abord, est-ce qu'il y a des tiques ? Est-ce que les gens sont mordus par des tiques ? Est-ce qu'il y a des maladies dans le bétail ? Par exemple, il y a des zones en France où vous avez beaucoup de babésiose dans le bétail. Bon, voilà, c'est une indication au moins qu'il y a des tiques et qu'ils sont infectés.
Votre enquête au niveau de l'Orne, en fait, ça donne quoi pour l'instant ?
Mais donc pour l'instant, l'enquête, on n'a pas fait beaucoup de publicité en France. On a déjà des réponses de... Il y a une centaine de Français qui nous ont déjà répondu parce que l'enquête est ouverte à tous. Et aussi, en fait, des Belges qui étaient partis en vacances et qui se sont fait mordre en France. Et donc, dans l'Orne, en fait, je vois ici dans mes résultats que pour l'instant, personne ne m'a signalé de morsure de tique dans l'Orne. Mais apparemment, vous en avez quand même quelques-uns. Donc, si vous voulez écrire sur mon enquête, je vous attends. On a juste, pour l'instant, une personne qui s'est fait mordre dans la Manche, en Basse-Normandie.
Et donc, en fait, vos données, elles pourront être exactes dans la mesure où on participe et où les gens qui se sont fait mordre par des tiques et qui ont Lyme et des symptômes participent à l'enquête.
Oui, donc plus il y a de gens qui répondent et plus on peut avoir une carte précise de ce qui se passe en France. Et je demande aussi aux gens s'ils connaissent des zones où les tiques sont particulièrement abondantes. Et donc ça pourra peut-être après aider à cibler ces zones-là pour de la prévention ou peut-être même plus tard de la lutte contre les tiques. Ça, on peut toujours y penser.
Donc on espère que votre message a bien été entendu par les Ornais, parce que pour ce qui concerne les tiques et la maladie de Lyme, ils connaissent. Donc l'enquête Técantique, surtout n'hésitez pas à y participer. Nous voilà arrivés au terme de cette émission et au terme d'une année de collaboration entre France Lyme et RCF 61. En attendant de se retrouver sur les ondes à la rentrée prochaine, vous pouvez, où que vous soyez en France, contribuer à une meilleure connaissance des populations de tiques et de l'impact de la maladie de Lyme en remplissant le questionnaire en ligne de Valérie Hobsommer, www.técantique.net. Bonnes vacances à tous et faites attention aux tiques.